Voilà, bonjour à toutes et à tous, dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, oui, c'est frappant de voir que Dieu a choisi de composer avec nous, qui nous sommes loin d'être parfaits. Il a choisi des apôtres qui étaient un chef d'entreprise, n'aurait peut-être jamais choisi. Mais Dieu, lui, il a choisi. Il a choisi de composer avec nous, des êtres imparfaits. Et on va poursuivre l'histoire de cette famille qui est loin d'être formidable, mais que Dieu a choisi pour, selon son plan, pour accomplir sa bénédiction, la bénédiction qu'il a promise à Abraham. Donc on en était resté à l'histoire de Isaac et de Rebecca. Hein, et Rebecca qui était restée longtemps stérile et qui a mis au monde des jumeaux. Donc dans l'histoire, alors c'est Genèse 25, hein, Pascal vous a partagé ça la semaine dernière, un bref rappel. Donc Ésaü, il est sorti le premier. Et le second, Jacob, il est sorti en second, en tenant le talon de son frère. Et bien c'est à Ésaü, il y a forcément eu quelqu'un qui est sorti le premier, c'est à Ésaü que revenait le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est ce droit d'aînesse, un rappel? Eh bien, à la mort du père, le fils aîné devenait le nouveau chef de la famille. Et il recevait une part d'héritage qui était plus importante que les autres enfants, ainsi qu'une bénédiction particulière. Mais avant que Ésaü et Jacob ne viennent au monde, Dieu avait fait une promesse à Rebecca. Il lui avait dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Avant leur naissance, en Genèse, chapitre 25, verset 23. On va voir pourquoi c'est important. Dieu avait décidé ainsi, il est Dieu, que Jacob, le cadet, aurait ce droit. Et la semaine dernière, donc, Pascal vous a raconté comment Ésaü a vendu à Jacob son droit d'aînesse pour un plat de lentilles d'une valeur de 5 euros, peut-être, ou grand maximum. Jacob, c'était un calculateur. Et Jacob, le nom Jacob veut dire supplanteur, celui qui prend la place de, ou encore trompeur. Et on va voir aujourd'hui qu'il portait bien son nom. Alors oui, on peut tromper les hommes. C'est possible en tout cas, c'est pas une recommandation. Mais la vérité que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'on ne manipule pas Dieu, qui tient toujours ses promesses. Et c'est ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, nous verrons au travers de cette famille, loin d'être formidable, une famille instable, eh bien, quelles sont les caractéristiques d'une famille instable? Deuxièmement, nous verrons que la tromperie a des conséquences. Et troisièmement, nous verrons que la promesse de la bénédiction pour tous les croyants vaut encore aujourd'hui. La promesse de la bénédiction d'Abraham pour tous les croyants vaut encore aujourd'hui. Premièrement, eh bien, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de cette famille, loin d'être une famille en or? Voyons les caractéristiques d'une famille instable d'après l'histoire de cette famille. Bien qu'ils soient jumeaux, donc Jacob et Ésaü sont bien différents. Ésaü est très poilu, alors que Jacob a la police. Ésaü aime être à l'extérieur pour chasser le gibier. Jacob, lui, c'est un casanier. Il aime bien rester sous les tentes avec sa mère. Il passe beaucoup de temps avec sa mère. Et on peut dire que chacun des parents a son chouchou. Son chouchou. Parce que voilà ce que dit Genèse 25-28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Chacun des deux parents avait son préféré. Et bien ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences dramatiques sur cette famille. On va le voir. Hein. Première caractéristique d'une famille instable, avant d'aborder le texte. Hein, c'est un rappel qui découle du texte d'avant. Première caractéristique d'une famille instable, c'est lorsque les parents font des préférences entre leurs enfants. Alors, ce sont des préférences qui sont manifestées ou pas, mais quand il y a du favoritisme, et c'est dans l'histoire de la famille d'Isaac et de Rebecca, eh bien c'est ce favoritisme qui va être la cause du bouleversement qui va suivre dans cette famille. Loin d'être une famille modèle, loin d'être une famille en or, pour reprendre le titre d'une émission. Alors, lisons donc la suite du récit en Genèse chapitre 27, et je vais lire déjà du verset 1 au verset 29, et je continuerai après. Donc lisons Genèse chapitre 27, verset 1 au verset 29, et je vais d'abord prier. Seigneur, merci encore de nous avoir laissé ces textes, Seigneur, dans lesquels Seigneur, ce sont des familles ordinaires, pécheresses, Dans chacune, on peut retrouver, Seigneur, une de nos faiblesses, Seigneur, et merci parce que tu nous montres que tu as un plan malgré nos péchés. Et Seigneur, nous voulons retirer de ce récit, Seigneur, des leçons, des applications pour nos vies. Merci de nous ouvrir le cœur et l'intelligence pour toujours mieux te connaître. En Jésus-Christ, amen. Genèse 27, verset 1 et suivant. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils, il lui répondit, me voici. » Isaac reprit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils, Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal comme je mangerai, que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevreaux. » Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal, comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevreaux ses mains, ainsi que son cou qui était glabre. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü. » Il répondit, « Oui. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. » Jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. Rebecca, elle avait certainement appris que son fils préféré, Jacob, avait déjà obtenu le droit d'aînesse, promis par Dieu. Il avait obtenu, effectivement, il avait acheté le droit d'aînesse à son fils pour un plat de lentilles. Maintenant, Rebecca, eh bien, une fois qu'elle sait qu'il a le droit d'aînesse, elle veut plus, elle veut que son fils ait la bénédiction. Jacob ait la bénédiction. Et certainement que Rebecca, l'épouse d'Isaac, devait connaître la bénédiction d'Abraham et de ses descendants, bénédiction qui a une portée beaucoup plus grande que la simple bénédiction liée au droit d'aînesse, puisque la bénédiction d'Abraham, elle nous touche encore aujourd'hui. Et voyons comment elle s'y prend, Rebecca. Elle va tricher, manifestement, elle va tricher. Elle va tricher en proposant à Jacob de se faire passer pour son frère aîné, Ésaü. Ruse parfaitement inutile, parce que ils vont chercher à obtenir par la ruse, sans attendre, ce que Dieu avait promis déjà. la bénédiction que Dieu avait déjà promise. Rebecca avait entendu que l'aîné sera asservi au plus jeune. Elle avait entendu, elle le savait avant même la naissance des jumeaux. Ils ont cherché à obtenir par la ruse cette bénédiction au lieu d'attendre le temps du Seigneur, au lieu de lui faire confiance. Leur problème, c'est qu'ils ont choisi la solution de facilité. Ils ont en quelque sorte voulu donner un coup de pouce à Dieu. Alors que tout vient de lui. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et Dieu tient toujours ses promesses, même si parfois ça prend du temps. Parfois ça nous pose problème, ça prend du temps. Alors, une deuxième caractéristique d'une famille instable, après le fait d'avoir des préférences, une deuxième caractéristique d'une famille instable, c'est le manque de foi. Le manque de confiance en Dieu. Le manque de projection pour l'avenir, pour le bien des enfants. Et une question se pose à chacun qui est parent, parent de jeunes enfants. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? C'est une question que chaque parent doit se poser. Qu'est-ce que nous voulons? Une belle carrière, une belle maison, une belle famille, ce qui est très bien. Mais plus important, est-ce que nous voulons qu'ils connaissent dès leur plus jeune âge le Seigneur Jésus comme leur sauveur et je vais dire comme leur frère aîné? Qu'est-ce que nous voulons? C'est important que chacun soit au clair sur ce que nous voulons pour ses enfants. Alors des questions se posent. On imagine un petit peu la situation. Quand Rebecca fait part de son plan à Jacob, est-ce que Rebecca et Jacob avaient imaginé la réaction non seulement d'Ésaü, mais aussi celle d'Isaac? Que leur stratagème fonctionne ou pas? Que la tromperie fonctionne ou pas? Parce que tôt ou tard, la vérité, elle aurait éclaté. Est-ce qu'ils avaient seulement réfléchi à ça? Et au début, vous avez remarqué, Jacob n'est pas d'accord. Il y a quand même une hésitation. Et il réfléchit, lui. Il réfléchit au risque d'une telle tromperie et craint qu'elle ne lui amène la malédiction au lieu de la bénédiction, si jamais son père le reconnaissait. Jacob, il voulait quand même freiner. Il hésitait quand même. Sa mère, elle fonçait. Et disant qu'elle était même prête à ce que la malédiction redoutée retombe sur elle. Elle n'avait pas peur. La mère et le fils, clairement, sont tous les deux des trompeurs. Trompeurs. Et on peut se poser la question, qui a influencé qui? Est-ce que c'est Jacob, son nom veut dire trompeur, qui a influencé Rebecca, ou est-ce que c'est Rebecca qui a influencé Jacob? Tous les deux passaient beaucoup de temps ensemble, hein, le texte nous le dit. En tout cas, peu importe. Peu importe parce que les deux, la mère et le fils, sont également responsables. Même si c'est la mère de Jacob qui a imaginé ce plan de substitution, même si le fils Jacob a obéi à sa mère, les deux sont responsables. D'où une troisième caractéristique d'une famille instable. C'est lorsqu'on fait passer un des membres de la famille, parent ou enfant, avant Dieu. Et Jésus a averti en Matthieu 10, 37, il a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Oui, c'est une question de confiance, n'est-ce pas? Si nous croyons que Dieu nous aime et qu'il aime nos enfants mieux que nous, qu'il aime nos parents mieux que nous, raison de lui faire confiance. En tout cas, il nous demande de le placer en premier, à la première place. On peut encore voir une quatrième caractéristique d'une famille instable, lorsqu'il y a un manque de communication entre les conjoints, entre l'épouse et le mari. Qui dit manque de communication dit manque d'unité entre un mari et sa femme. Parce que Rebecca ne va pas hésiter à tromper non seulement son fils, Ésaü, mais son mari, Isaac. Et en faisant cela, ça va forcément retomber sur leurs enfants qu'ils chérissent tous les deux. Mais par cette attitude, il y aura des conséquences sur leurs enfants. Rebecca, on se dit, mais elle aurait au moins pu consulter son mari au lieu de le tromper. Elle aurait pu parler avec lui plutôt que de décider toute seule. Et parfois, c'est le problème dans un couple, lorsque l'un décide sans en faire part de l'autre, à l'autre d'une décision importante. Et là, c'était une décision très importante. Alors, oui, l'unité des parents, elle est très importante, n'est-ce pas, devant les enfants. Pour maintenir l'unité, eh bien, les parents ne devraient jamais se disputer devant les enfants. Pas facile, hein. Ça, quand ça sort, on est contrarié, ça sort sur le champ, puis après on s'en veut. Mais en tout cas, d'essayer de ne pas se disputer devant les enfants et d'attendre le bon moment pour s'expliquer. Seul, en essayant de se comprendre, de communiquer, d'attendre le bon moment et savoir attendre, de se contenir. Et pour ça, eh bien, il faut la grâce de Dieu. Finalement, eh bien, Jacob, il accepte de faire ce que lui dit sa mère. En enfin obéissant à sa maman, il va faire ce qu'elle dit. Puis, eh bien, elle fait mettre à Jacob les vêtements d'Ésaü qui sentent bon la campagne. Elle prend ensuite des peaux de chèvre et les lui met sur les mains et le cou. Jacob prend le plat préparé par Rebecca, et va le porter à Isaac, qui va lui poser cette question. Qui es-tu? Ce qui va entraîner Jacob au mensonge, cette question. Jacob qui va dire qu'il est Ésaü. Premier mensonge. D'où une cinquième caractéristique d'une famille instable, lorsqu'on laisse rentrer le mensonge dans la famille, dans les relations. Jacob, il va mentir trois fois dans ce passage. Il va mentir trois fois sur son identité, au verset 19, au verset 20 et au verset 24. Et plus grave, c'est que au deuxième mensonge, Jacob va employer le nom de Dieu dans son mensonge. Lorsque Isaac lui a fait remarquer qu'il n'a pas mis longtemps à apporter le gibier, eh bien, verset 20, Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Vous remarquez, Jacob a bien pris soin de dire « L'Éternel, ton Dieu. » En effet, le Dieu d'Abraham et d'Isaac n'était pas encore le Dieu de Jacob. Pas à ce moment-là. Et on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Même si Dieu n'était pas encore le Dieu de Jacob, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. C'est le troisième des 10 commandements. Hein. La loi est à venir après. Nous savons, effectivement, nous avons la parole. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Et Dieu va prendre Jacob au mot et se fera connaître à Jacob pendant les nombreuses années qui allaient suivre. Et que nous racontons les autres chapitres. Alors, à ce moment-là, on imagine la scène, on sent le cœur de Jacob et certainement de Rebecca battre. Parce que l'instant, il est quand même crucial. Est-ce que la supercherie va réussir? Isaac a quelques doutes. Il entend une voix qui est celle de Jacob, mais il touche des mains qui sont velues, qui sont celles d'Ésaü. Il a le doute. Il va sentir l'odeur des vêtements d'Ésaü sur Jacob, et c'est ça qui va le convaincre. Jacob s'est fié à ses sens, qui était défaillant parce qu'il était non-voyant. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier à ses sens quand on a une décision à prendre. En tout cas, résultat, eh bien, versets 27 à 29, Isaac a fini par bénir Jacob, qu'il croyait être Ésaü. Et vous avez remarqué, quand est-ce qu'il le bénit? Au moment où il lui demande de s'approcher, pour que Jacob lui donne un baiser. Enfin, moi, ça m'a rappelé en tout cas le baiser de Judas. Jacob use de stratagèmes. Mais Dieu a son plan. Et il a choisi de composer avec une famille bien imparfaite. Le stratagème a marché. Et voilà qu'Ésaü rentre en scène. Lisons la suite, Genèse 27, à partir du verset 30. Isaac finissait de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. » Son père Isaac lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un trouble extrême, et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, extrêmement amer, et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ? Isaac répondit à Ésaü, voilà, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? Ésaü dit à son père, tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père. Moi aussi, bénis-moi, mon père. Ésaü se mit à sangloter. Son père Isaac lui répondit, voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut dire vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. Quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui auras fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour ? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une Hittite, une des filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie ? Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Lève-toi, va à Padan Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob qui se rendit à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu n'épouseras pas une Cananéenne. » Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère et il était parti pour Padan Aram. Ésaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors Ésaü se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébaïoth, en plus de ses autres épouses. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Deuxième point, eh bien, Jacob et Rebecca ont trompé Ésaü et Jacob, et on va voir que la tromperie a des conséquences. Qui es-tu ? Même question à Ésaü qu'il a posée à Jacob, qu'il n'avait pas reconnu. Isaac, il est très très troublé. Et Ésaü est très très amer et très très en colère. Après lui avoir enlevé son droit d'aînesse, avec tout de même son accord, hein, Jacob lui a donné son, il lui a vendu son droit d'aînesse. Hein. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Donc après lui avoir enlevé son droit d'aînesse, voilà qu'il lui enlève maintenant la bénédiction à Ésaü. Ésaü, qu'est-ce qu'il fait ? Il va mendier, en quelque sorte, une bénédiction de son père. Il va manquer, par trois fois, il va réclamer une autre bénédiction pour lui, au verset 34, au verset 36, au verset 38. Mais Isaac ne peut plus lui donner la grande et belle bénédiction d'Abraham, qu'il vient d'accorder à Jacob, avec tous ses avantages et sa supériorité sur ses frères. Isaac a béni Jacob, aussi sera-t-il béni. Même s'il a été trompeur. C'est un testament légal et irréversible. C'est une bénédiction immuable qui accordera prospérité, puissance et protection. Alors, à ce stade-là, on peut se poser la question, est-ce que Dieu bénit la tromperie comme ça ? Il faut attendre la suite, la fin de l'histoire, hein, avant de tirer des conclusions, bien sûr que non, Dieu ne bénit pas la tromperie, le mensonge. Ésaü, il aura une vie errante. Lui, il aura une vie errante Édom, le peuple qui descend de lui, sera asservi à Israël, selon ce que Dieu a dit. Mais Édom se libérera souvent de la dépendance d'Israël. Voilà sa bénédiction, si on peut appeler ça une bénédiction. En tout cas, il arrivera, Ésaü, les descendants d'Ésaü se libéreront d'Israël, même si ils lui seront asservis. Le père et le fils, Isaac et Ésaü, savent tous deux qu'ils viennent d'être trompés. La mère et l'autre fils, Rebecca et Jacob, eh bien, eux, ils vont supporter les conséquences de leur tromperie. Quelles sont ces conséquences? Conséquences immédiates, déjà. La haine chez Ésaü. Ésaü veut tuer son frère, qui a pourtant été béni. Ésaü veut tuer son frère Jacob, qu'il s'est mis à détester. Il a pris en aversion. Il veut le tuer, mais pour ça, il va attendre la mort d'Isaac. Parce qu'il sait que ça ferait trop de peine à son père. Il veut tuer son frère. Et Rebecca, qui a entendu cela, eh bien, elle va avertir Jacob. Et elle va le faire partir chez son frère Laban, à Haran, pour, dit-elle, quelque temps. Quelque temps qui vont durer 20 ans. Ça, elle ne le savait pas. Rebecca ne sait pas qu'elle ne reverra plus Jacob. Elle ne le sait pas à ce stade-là. Elle ne le reverra plus jamais. Voilà une conséquence de sa tromperie. Alors, pour le faire partir et pour qu'Isaac soit d'accord pour qu'il parte, elle va obtenir subtilement l'accord d'Isaac en lui disant qu'elle ne veut pas que Jacob épouse une étrangère cananéenne, ce qu'a fait Ésaü et ce qu'il a beaucoup contrarié. Et Isaac ne veut pas non plus que Jacob épouse une cananéenne à cause de la bénédiction d'Abraham. À cause de la bénédiction d'Abraham et de sa descendance. Alors Isaac, eh bien oui, il est d'accord. Il va bénir une deuxième fois Jacob de la bénédiction d'Abraham, au verset 1 à 4 du chapitre 28. Et que va faire Jacob? Le texte nous dit qu'il obéit à ses parents. Il obéit à ses parents et il part. Il quitte Canaan pour revenir en Mésopotamie, d'où est sorti Abraham. C'est un retour à la case départ. Et ça ressemble à une punition. Pourtant, Jacob a été béni de la plus grande bénédiction qui soit. Oui, certes, Jacob a été béni. Mais attention, la bénédiction n'écarte pas forcément les souffrances. Surtout si elles sont le résultat du péché. Jacob, les chapitres suivants nous le disent, Jacob récoltera quand même ce qu'il aura semé, ce qu'il a semé dans les années qui vont suivre. Les années qui vont suivre seront jalonnées d'épreuves. Il sera lui-même trompé, le trompeur trompé, par Laban, ça c'est pour plus tard, jusqu'à ce que Dieu devienne son Dieu. Que Dieu devienne le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ésaü, quant à lui, il en veut à son père. Mais Ésaü, il ne sait pas. Il ne sait pas que sa mère a été l'instigatrice de cette supercherie. Il ne connaît pas le rôle de sa mère dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il reprendra une femme cananéenne, sachant bien que ça contrarie ses parents. Il est amer, Ésaü. En résumé, des relations familiales brisées, une famille divisée, une haine meurtrière envers son propre frère, un éloignement de Jacob de sa famille, avec la peur et l'insécurité qui en découle. Imaginez, Jacob part loin de sa famille. On récolte ce qu'on sème. Alors, voilà, ça c'est l'histoire. C'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Parce que Dieu a promis, il a promis la bénédiction à Abraham. Cette bénédiction qui vaut encore pour nous aujourd'hui. Et ce texte, on peut réfléchir. On peut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Et pourquoi? Quand est-ce que tout a commencé? Eh bien, tout a commencé, les problèmes ont commencé lorsque Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse en le vendant à Jacob, son frère. Et ça, c'est la cause première du péché. La cause première du péché qui amène à désobéir à Dieu, c'est l'insatisfaction. C'est mépriser le don de Dieu. C'est croire qu'un plaisir passager a plus de valeur que ce que Dieu veut nous donner par grâce et qui nous donnera bien plus de plaisir. Parfois, certains ne veulent pas devenir chrétiens parce qu'ils se disent « Bon, être chrétien, on arrête toutes les joies, on n'a plus de plaisir. » C'est pas ça. Être chrétien, vous savez, John Piper, c'est un auteur, il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle « Prendre plaisir en Dieu ». Dieu ne veut pas nous prouver de plaisir, il veut juste que notre plaisir soit en lui. Et Ésaü, il a méprisé le don de Dieu. Le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17, nous dit ceci. Hébreux 12, 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors oui, attention, ce texte nous apprend, nous met en garde, attention à ne pas vendre son âme en échange de quelques plaisirs éphémères qui ne durent pas. Lettre aux Éphésiens, Philippiens, chapitre 3, verset 19, nous dit ceci, en parlant de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Cherchez, la nourriture c'est bien, Dieu nous la donne, et il veut qu'on prenne plaisir en cela. Un bon repas, une agape, c'est un plaisir qu'on partage entre frères et sœurs. Mais lorsque c'est séparé de celui qui nous donne tout, eh bien, il manque le principal. Est-ce que nous aussi, parfois, nous ne préférons pas parfois un plaisir terrestre éphémère, un petit péché, à la bénédiction divine nettement supérieure qui nous donnera le vrai plaisir? Et pour reprendre une image de John Piper dans son livre « Prendre plaisir en Dieu », c'est comme si on préférait se baigner dans un caniveau plutôt que de profiter de vacances à la mer qui nous sont gratuitement offertes. Ça revient à ça. Prendre un plaisir immédiat avec la saleté au lieu de voir plus loin. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Et c'était non seulement le problème d'Ésaü, de Jacob et de Rebecca, mais c'est notre problème à tous. Lorsqu'on désire plus la bénédiction que la présence de Dieu, la présence de celui qui bénit, qui donne la bénédiction. Tricher sur sa feuille d'impôt ou avec l'URSSAF, et on pense « pas vu, pas pris ». Ça marche pas avec Dieu. Même si Isaac était aveugle, Dieu, lui, il a tout vu. Alors oui, quelle famille loin d'être formidable. Et qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire avec une telle famille, devant une telle fourberie, une telle tromperie? Et on peut se poser la question, est-ce que sa promesse faite à Abraham, duquel seront bénies toutes les nations de la terre, est-ce qu'elle tient toujours? Eh bien oui, elle tient toujours. Amen. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu qui a promis et qui tient toujours ses promesses. Amen. Voyons justement maintenant, troisième et dernier point, cette promesse, la promesse de la bénédiction d'Abraham pour tous les croyants. Pour tous les croyants. Vous avez remarqué, quand le poteau rose a été découvert, Isaac n'a fait aucun reproche à Jacob. Aucun reproche. Il n'a pas dit « tu m'as trompé », il n'a pas dit « pourquoi ?» Parce qu'il venait de le bénir. Et parce qu'une fois la bénédiction donnée, il ne revient plus dessus. 1 Chronique 17, verset 27 nous dit, la fin du verset 27, 1 Chronique 17, verset 27, « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Et je vais lire tout le verset. Il s'agit d'une bénédiction de la famille. 1 Chronique 17, verset 27, « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Quand Dieu bénit, il bénit. Et comme on l'a vu, ça ne veut pas dire qu'on ne récolte pas ce qu'on sème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Isaac ne fait aucun reproche à Jacob, aussi parce que la bénédiction ne peut pas se mélanger à la malédiction. La bénédiction ne peut pas se mélanger à la malédiction. Et l'épître de Jacques, qui parle de l'usage de la langue, il est très clair. Elle est très claire là-dessus. Jacques, chapitre 3, verset 10, nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Alors oui, il faut bien admettre, notre cœur, il est mauvais. Ça se voit dans ce que nous faisons, dans nos mensonges, dans nos tromperies. Même si tout le monde ne le voit pas, Dieu, lui, voit nos cœurs, nos pensées. Notre cœur a besoin d'être changé. C'est ce que Dieu veut. Et comment le changer? Eh bien, pour pouvoir changer notre cœur, quelqu'un a pris sur lui notre malédiction pour nous bénir de la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction d'Abraham, je la redis, chapitre 12, Genèse 12, 3, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Jacob s'est substitué à Ésaü pour lui voler la bénédiction. Eh bien, quelqu'un, descendant d'Abraham, s'est substitué à nous pour prendre sur la croix la malédiction qui nous revenait à cause de nos péchés. Il s'agit bien sûr de Jésus, le Fils de Dieu. En croyant en Jésus, nous rentrons dans la famille de Dieu. Et plus que cela, nous recevons les mêmes privilèges qu'un enfant a auprès de son père. Mais encore plus que cela, nous avons un frère aîné. Notre frère aîné, c'est le Christ. C'est le Christ. Nous qui sommes chrétiens, croyants, notre frère aîné, c'est le Christ, dans la famille de Dieu. Le fils aîné, c'est lui l'héritier de toutes choses, de par son sacrifice à la croix et par sa résurrection. Et nous sommes aussi co-héritiers avec lui. Nous sommes aussi co-héritiers avec lui. Parce que, contrairement à la loi juive, qui privilégiait le fils aîné avec une double portion, eh bien, tous les croyants, nous tous, nous aurons part à l'héritage de Jésus, le fils aîné, qu'il a acquis pour nous. À savoir, eh bien, nous faire voir et partager la gloire de son Père, la gloire de Dieu. Voilà notre héritage. Et c'est pas des moindres. Oui, Jacob s'est substitué à Ésaü pour lui voler la bénédiction, eh bien, le descendant d'Abraham, Jésus, s'est substitué à nous pour prendre sur la croix notre malédiction et pour nous bénir de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes aussi héritiers, je termine avec ces passages dans ces deux versets dans Galates, chapitre 4, versets 6 et 7, qui suit d'ailleurs le verset qui était pour aujourd'hui, c'est pas très loin, qui parle que vous êtes tous fils de Dieu. Voilà, Galates 4, 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur, comment ne pas te remercier, Seigneur, quand on voit ta patience, Seigneur, quand on voit ton amour. Quand on se regarde, Seigneur, c'est vrai que, Seigneur, on se rend bien compte, Seigneur, que nous étions séparés de toi, Seigneur, à cause de nos péchés. Mais quand on considère la portée de ton amour, Seigneur, oui, tu t'es substitué à nous, tu as pris sur la croix la malédiction de nos péchés pour nous bénir de cette bénédiction que tu avais promise à Abraham et à ses descendants. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui change le mal en bien. Tu vois beaucoup plus loin que nous-mêmes. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, au travers de ces histoires de famille, Seigneur, oui, on peut se retrouver, Seigneur, dans certains points. Seigneur, merci de nous aider à te faire confiance. Tu nous as laissé ces récits pour que, Seigneur, on te fasse confiance pour l'éducation des enfants, pour nos relations parents et enfants. Seigneur, que ce soit toi qui régisse nos relations, que tu sois au centre de nos relations les uns avec les autres. Merci pour ce que tu nous fais traverser les joies, les peines, sachant que c'est pas sans raison, parce que tu nous aimes, tu veux nous amener à la ressemblance de ton Fils Jésus. Merci Seigneur pour une telle grâce, pour un tel amour, Seigneur, dont tu nous as aimés. Et merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Oui Seigneur, on se dit comment tu as pu faire avec une telle famille. Eh bien oui, tu as fait, tu as composé avec eux pour nous amener jusqu'ici aujourd'hui, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen.